voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et notre débat du grand rendez-vous de ce soir, je vous le rappelle, porte sur l'élection le 12 mars prochain à la tête de la CAF, la Confédération africaine de football. Il y a 5 candidats déclarés dans l'immédiat. Parlons du Sénégal. Le mois dernier, 140 jeunes Sénégalais ont péri en mer en tentant la traversée vers l'Europe. Ce bilan fourni par l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, a été contesté par les autorités sénégalaises, visiblement embarrassées par l'augmentation du nombre de jeunes qui prennent les voies irrégulières pour essayer de rejoindre l'Europe. C'est du moins l'avis de notre invité qu'on écoute.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Ousseynou Narguey, vous êtes éditorialiste et fondateur du site tract.sn. Bonjour.
Bonjour Liliane Natcha et bonjour à Africa Radio.
Vous avez signé une tribune cette semaine dans Jeune Afrique dans laquelle vous vous indignez du peu d'intérêt accordé au drame des migrants sénégalais par le président Macky Sall. Il a exprimé son émotion dans un tweet, mais également transmis ses condoléances aux familles des victimes. Est-ce que jusque-là pour vous c'est insuffisant ?
Oui, j'ai trouvé cela comme étant un minimum syndical. Le président en plus s'est trompé, il n'avait peut-être pas la bonne information en parlant d'une dizaine de jeunes. Il y en a 140 selon le décompte de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Donc de mon point de vue, ça méritait au moins, je pense, un deuil national.
Et selon vous, qu'est-ce que cela illustre ?
Je pense que l'immigration clandestine, par des moyens aussi périlleux et aussi inorthodoxes que des pirogues, c'est un peu la mauvaise conscience, effectivement, du gouvernement sénégalais. Et ça entre en collision avec la promotion qu'ils font de la destination Sénégal comme étant une opportunité économique pour les investisseurs du monde entier. Je crois que là, il y a une dissonance cognitive du gouvernement qui a du mal à prendre en charge cette question de l'immigration clandestine, alors que dans le même temps, ils font la promotion d'un plan Sénégal émergent qui dit que le Sénégal sera émergent en 2035 et que dans le même temps, en août dernier, le président Sall était devant le patronat français à vanter les opportunités dans les domaines, les secteurs du pétrole, de l'or, etc., pour dire vraiment que le Sénégal et plus largement l'Afrique n'étaient pas la face obscure du monde qu'on pense.
Donc, à vous entendre,
je crois qu'il y a une tentative de minimiser. On a entendu un haut fonctionnaire, le directeur de l'emploi, dire que le taux de chômage n'est que de 6,8% au Sénégal, alors que la CIA, à qui on peut faire confiance quand même, dit que le taux de chômage est de 48%. Et surtout, j'en termine là, il y a eu des hauts fonctionnaires aussi du ministère de l'Intérieur qui a d'ailleurs démenti les chiffres de l'OIM.
Ce fléau de l'immigration clandestine embarrasse le gouvernement sénégalais ?
Oui, ça l'embarrasse certainement parce que ça ne date pas du président Sall. C'est quelque chose, un phénomène qui a commencé du côté des années 2004-2005, d'abord en sourdine, puis on l'a vu sur la place publique. Ça l'embarrasse certainement parce que je pense que un gouvernement est toujours dans la difficulté quand il doit dire qu'il n'a pas la capacité de fournir à toute sa population et notamment à sa jeunesse les emplois qu'ils sont en droit
et de l'espoir aussi.
Donc je pense qu'ils sont effectivement embarrassés. Simplement, le président a quand même annoncé, il a un mécanisme de financement de projets d'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, que ce mécanisme-là, l'ADER, délégation à l'entrepreneuriat rapide, accordera une priorité aux projets des rescapés et des personnes tentées par cette immigration clandestine. Mais je pense effectivement que le gouvernement est embarrassé et ne sait pas par quel bout prendre ce qui est finalement un phénomène de société.
Ousseynou Narguey, est-ce que les réponses dont vous venez de parler vont suffire à retenir les jeunes Sénégalais sur place ? Parce que d'autres acteurs de la société civile sénégalaise pointent surtout du doigt l'attribution dite anarchique de licences de pêche aux grandes sociétés étrangères au détriment des pêcheurs locaux qui vivaient justement de cette activité.
Oui, c'est vrai que la pêche artisanale fait vivre des millions de personnes au Sénégal. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est les pêcheurs artisanaux dans les pirogues qui allaient, comment dirais-je, alimenter les grands bateaux industriels en fruits de la pêche. Mais je ne pense pas que les pêcheurs soient la première population qui émigre clandestinement. Ce sont plutôt les pêcheurs qui se reconvertissent comme passeurs pour amener les jeunes et les moins jeunes qui veulent partir. Donc je ne crois pas que ce soit là un problème. Mais peut-être la pêche et le problème de la surpêche est emblématique peut-être d'une mainmise étrangère sur l'économie sénégalaise, mainmise d'entreprises à capitaux étrangers qui n'embauchent peut-être pas suffisamment. Alors, avec un pays qui a 700 km de côte maritime, je ne suis pas sûr qu'on puisse freiner ces départs-là par des passeurs. Le Sénégal, entre 2012 et 2019, s'est accru de 4 millions d'habitants en plus. Je pense que ça devrait aussi passer par la maîtrise de la démographie.
Ousseynou Nargué, éditorialiste et fondateur du site trat.sn, merci d'avoir accepté notre invitation.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et bienvenue une fois de plus. Nous allons parler ce soir de l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football. Ce sera le 12 mars prochain et 5 candidats déclarés sont connus, dont le président sortant Ahmad qui a annoncé sa candidature à la fin du mois dernier. Et nous avons le plaisir d'accueillir Mokhtar Mohamoud Hamid, le président de la FTFA, c'est la Fédération Tchadienne de Football Association. Oumou Khan, directrice du département football féminin à la Fédération Mauritanienne de Football. Et Lamine Badiane, journaliste, commentateur sportif à Africa Radio. Il participe à l'émission Tout Feu, Tout Foot. Messieurs, bonsoir. Madame, bonsoir. Vous nous entendez?
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue, Madame Khan.
Ouais.
Allô.
Je vous entends aussi.
D'accord.
Oui, je vous entends.
C'est bien, Monsieur Hamid.
Oui.
Bienvenue à vous, Badiane. Vous êtes là, Lamine Badiane. Nous allons commencer avec le président de la Fédération Tchadienne de Football, Monsieur Hamid. Trois candidats face quatre, pardon, puisque entre-temps, on a appris également la candidature de Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégalaise de Football. Donc, ce sera quatre candidats. Ces personnalités sont-elles suffisamment connues et influentes dans le milieu du foot continental pour faire éventuellement vaciller Ahmad, qui, lui, a l'avantage quand même d'être l'actuel occupant du poste? Allô?
Oui.
Monsieur Hamid, vous m'avez entendu?
Oui, je vous ai entendu.
Ah oui, je vous demandais quelles sont les chances des autres candidats, étant donné que le poste est occupé par Monsieur Ahmad. Est-ce que ces candidats ont suffisamment d'influence? Est-ce qu'ils sont assez connus sur le plan continental pour inquiéter éventuellement Ahmad?
Merci. Les chances, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que c'est un truc un peu compliqué. Et comme vous, je viens d'en parler sur les zones qu'il y a eu 5 candidats. Mm-hmm. Je sais que Ahmad est l'ancien président, le président sortant, qui a été soutenu par beaucoup de fédérations pour qu'il passe à sa candidature. Mm.
Je crois qu'il avait eu le vote de plus de 44 fédérations.
Oui, oui, je crois. Mm-hmm. Donc, les connaître.
C'était exactement 34 fédérations africaines contre 20 pour le Camerounais Ayatou en 2017 à Addis Abeba.
Ah, quand il gagnait.
Oui, oui, ça c'était en 2017. Allez-y, vous disiez.
En 2017. Non, je disais que maintenant, pour aller présenter sa candidature, il a été soutenu par plusieurs fédérations. Bon, les chances, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Les connaître, on les connaît, moi, je les connais tous. Ils sont des membres du comité exécutif. Anouma était aussi ancien président de la Fédération ivoirienne, je les connais. Celle des Sud-Africains, je ne l'ai pas connue. Mais Au niveau africain, peut-être qu'Amat est plus connu parce qu'il est devenu président de la CAF, c'est tout le monde qui le connaît. Mais les histoires de votes viennent au dernier moment. Là, je crois que ça dépend des fédérations.
Ça se passe souvent en coulisses.
Oui, j'ai l'impression aussi. Donc, ça, je ne sais pas. Mais chacun a ses chances. Et il sait pourquoi il dit qu'il est devenu candidat, quitte à aller de voir.
Mais est-ce que vous en... Oui, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette frénésie que suscite cette élection? On a vu en 2017, par exemple, que Ahmad n'avait pas eu du mal à passer. Il n'y avait pas beaucoup de, il n'avait vraiment pas de concurrence. C'était comme une sorte de tous contre Issa Hayatou. Mais là, à peine 4 ans après, on voit qu'il y a 4 candidats quand même qui vont l'affronter si évidemment leurs candidatures sont validées, y compris celle de Ahmad qui est un peu menacée. Qu'est-ce que vous inspire déjà cet engouement de candidatures qu'on observe?
Non, moi je ne sais pas. Bon, leur motivation, c'est à eux de l'éprouver, mais moi je ne sais pas quelle motivation ils ont pour devenir candidat. Vous avez, comme vous l'avez dit, avec Hayatou, il était le seul, il a eu des chances pour passer, mais cette fois-ci, c'est après un mandat, ils sont 5, donc chacun a ses idées. De quelle manière?
Vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir autant de candidatures?
Autant de candidatures, je ne pense pas que ça va être une bonne chose, parce que ça ne peut être que des divisions et beaucoup de bruit. Ça dépend des programmes aussi. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose.
Merci. Restez avec nous, M. Hamid. Lamine, vous m'entendez?
Je vous entends. Salut. Alors... comment ça va?
Et ça va, Lamine. Aidez-nous à décrypter et à comprendre tout cela. Alors, je demandais, est-ce que valent ces 4 potentiels opposants à Ahmad? Quelles sont leurs chances? Et aussi, on voit qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Cette élection suscite beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous qui êtes journaliste sportif et qui suivez particulièrement le foot?
Oui, effectivement. Une chose est sûre, c'est que l'un des candidats, parmi ces 5 candidats, le candidat le plus plausible qui pourrait peut-être inquiéter Ahmad Ahmad, c'est bien Jacques Hanouma. Parce que Jacques Hanouma, jusqu'ici, était un candidat à qui on avait barré la route depuis très très longtemps.
En 2013, sa candidature n'avait même pas été validée face à, à Issa Hayatou.
Exactement. Donc c'est quelqu'un qui, à la limite, non seulement à la compétence, parce qu'il a été quand même un grand président, et qui a toujours été coincé par rapport à une sorte d'éligibilité au sein de la Confédération africaine de football. Donc pour moi, effectivement, c'est celui qui pourrait peut-être inquiéter Ahmad. Bon, pourquoi cette frénésie? C'est vrai, vous avez raison, mais je pense que c'est tout simplement parce qu'il y a eu, depuis l'élection de Ahmad, une situation au niveau des faits, hein, je parle au niveau des faits, quand même un bilan assez mitigé. Un bilan assez mitigé où on a vu des situations où on revenait toujours sur... Ça me rappelle un peu, comment dirais-je aussi, cette situation actuelle sur le Covid. On fait un pas en arrière, on revient, on dit ceci, etc. Ne serait-ce que par rapport à tout ce que vous avez vu concernant le Cameroun qui devait organiser, puis non, ensuite on lui a remis, etc., etc. Donc il y a eu tellement de décisions de la Confédération africaine qui font que peut-être que les gens en ont eu un peu marre de ce va-et-vient qui pousse certains à se dire bon ben on va se présenter pour que ça soit clair. Parce que jusqu'ici quand même, quand vous avez Issa Hayatou qui a mené la Confédération africaine d'une main de fer durant 30 ans, on savait où on allait et donc ça n'a pas été le cas depuis 4 ans sur le magistère de...
Donc vous direz qu'il y a une navigation un peu à vue?
Ouais, pour moi c'est une navigation à vue qui fait qu'aujourd'hui vraiment cette le président Ahmad Ahmad a créé autour de lui beaucoup, non pas peut-être pas des opposants, mais peut-être des gens qui se sont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas faire pire. Quoi.
Mais en même temps, vous dites que à part Jacques Anoma, d'autres candidats, d'après vous, ne pèsent pas beaucoup et ne devraient pas inquiéter Ahmad, qui lui-même, dont la candidature elle-même n'est pas encore certaine. Mais si on prend le cas de Patrice Motsepe, le Sud-Africain, sa candidature a non seulement été annoncée par Danny Jordan, le président de la Fédération sud-africaine, peut-être parce qu'il a été infecté du Covid, mais il y a aussi quand même qu'il est président d'un club important, il a les moyens et il est soutenu, d'après Danny Jordan, par le Botswana, la Sierra Leone et le Nigeria.
Oui, c'est sûr. C'est que Danny fait partie aussi des gens qui ont été plus ou moins barrés au niveau de la Confédération africaine de football. Donc c'est normal qu'au niveau de la COSAFA, l'association régionale, qu'on puisse soutenir le candidat sud-africain. Bon, Danny Jordan est sud-africain aussi, hein. Donc à la limite, ça ne m'étonne pas.
Sans compter les pays d'Afrique de l'Ouest, le Sierra Leone et Nigeria. Anglophone peut-être.
Anglophone, voilà, anglophone. Mais moi, ce qui m'importe, c'est aujourd'hui, c'est vrai que si je faisais partie, bien sûr, du comité exécutif ou bien même de la Confédération africaine de football, mes voeux iraient pour Jacques Anouma, qui déjà avait été président, rappelez-le, de la région aussi. Hein. Mm-hmm. Donc c'est quelqu'un qui connaît et qui connaît bien les dossiers, qui ça fait longtemps qu'il est dans le...
Le siège et le circuit du football africain.
Bon, d'accord. Mais malheureusement, je ne vote pas.
Voilà. Et Jacques Anouma, qui a été aussi en 2017 médiateur des présidents de la CAF et de la FIFA. Je vais peut-être poser la question à Oumou. Oumou, vous nous entendez? Est-ce que cette analyse faite par Lamine vous fait dire que, bon, le candidat mauritanien n'a pas de chance?
C'est ce qu'il pense. Il a aussi ses chances. Hein. Pourquoi pas?
D'accord. Vous vous dites qu'il peut bien secouer Ahmad.
Bien sûr. Pourquoi pas? Il peut bien secouer. Pourquoi pas? Parce qu'on sait que nous avons... il a fait ses preuves au niveau de la Fédération mauritanienne de football. Il a réussi à ICO le football mauritanien. Et en plus de ça... moi, je travaille dans le domaine du football féminin et surtout dans notre société, réussir à faire du football féminin une réalité en Mauritanie, amener les équipes féminines à jouer en Espagne et en Tunisie. Et en plus de ça, à organiser des conférences au niveau de la Mauritanie. Et surtout que la Mauritanie a toujours été d'exemple par rapport à son leadership.
Mais on le dit très proche aussi du président Ahmad. On le dit très proche pourtant de Ahmad.
Comment ?
On le dit très proche de Ahmad.
Oui, ils sont très proches parce qu'il lui a fait la candidature. Moi, je me rappelle quand il s'est présenté pour les élections contre Issa Hayatou. Il est venu à Nouakchott nous rendre visite. Ils sont même passés à mon bureau au département du football féminin. Ils
D'accord.
sont très proches. Voilà. Et nous, tout ça, on a été agréablement surpris de sa
Merci beaucoup, Oumou. Vous allez poursuivre juste tout à l'heure. Et on reçoit Edouard avec les questions des auditeurs. Edouard, bonsoir.
Bonsoir Liliane, bonsoir à tous.
Restez scotchés.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
5 candidats déclarés sont en lice pour la présidence de la Confédération africaine de football. L'élection aura lieu le 12 mars prochain. Quelles sont les forces en présence? C'est le thème de notre débat de ce soir. Un débat auquel participent les internautes Edouard Béranger-Ning.
Bien sûr, Liliane.
Et nous avons une première question, c'est celle de Damantin Sédiou.
Damantin Sédiou, justement, qui demande qui parmi ces candidats a le meilleur profil pour prétendre à la présidence de la CAF. Une question qui est posée à coach Lamine Bayan. Coach, est-ce qu'il est avec nous?
Oui,
coach, vous avez entendu la question de Damantin Sédiou?
Lamine avait déjà expliqué tout à l'heure que pour lui, Jacques Anoma.
Oui.
Même si faudrait avoir l'hypothèse que. Ahmad Ahmad peut se succéder à lui-même. Hein. Mais moi, mes faveurs vont sur Jacques Anouma par rapport à tout ce qu'il a pu réaliser, non seulement au sein de la Fédération ivoirienne de football, mais aussi en tant qu'homme du sérail du football.
D'accord, mais on parle aussi du bilan non moins intéressant de Ahmad Lamine.
Oui, alors, bilan. Alors, ce bilan-là, moi, je le trouve pas très, très flatteur, parce que lui-même reconnaît que ce n'est pas très flatteur. Regardez, par exemple, toutes les réformes qui ont été mises en place par Ahmad Ahmad, et où il y a eu des débats, ne serait-ce que la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes, la Coupe d'Afrique des Nations sur tous les 4 ans, qui s'est posée aussi, n'oubliez pas ça, les différentes dates des clubs champions qui ont été revues, changées, la périodicité de la Coupe d'Afrique. Il y a toutes des réformes, en tout cas, qui ont créé beaucoup, beaucoup de débats et qui font qu'aujourd'hui, on a eu l'impression que Ahmad Ahmad jouait ou jouait pour les clubs européens. Quand je dis clubs européens, bien sûr, pour la FIFA et pour les clubs européens, les clubs...
Mais on parle aussi d'un bilan financier qu'on qualifie, que les experts sportifs qualifient d'honorable.
Oh, bon.
D'une bonne gestion des conséquences de la crise sanitaire.
Ben oui, c'est ce qu'on dit, parce que n'oubliez pas que quand même, il y a Fatma Samoura, la Sénégalaise, qui est à la FIFA, qui a été appelée au chevet de la CAF, de la Confédération africaine de football, et qui, semble-t-il, dont le contrat, semble-t-il, n'a pas été renouvelé. Pourquoi ? Les gens se posent des questions. Mais il s'agit de peut-être d'une situation qui a été révélée ces temps-ci, où on parle quand même de manifestations ou bien de malversations d'environ 24 millions ou 24 millions.
D'accord.
Donc c'est, ça aussi, c'est un problème qui se pose.
D'où l'enquête du comité éthique de la FIFA. Ouais.
Exact.
D'accord. Exact. Nous allons écouter la deuxième question, qui est de Maman Diop.
Maman Diop, oui, Liliane, qui demande à Madame Khan, est-ce qu'il y a un réel engagement des grandes instances du football comme la CAF pour accompagner le football féminin aujourd'hui?
Merci beaucoup. Donc, en 2017, la CAF avait organisé un symposium du football féminin en mars, je me rappelle. au Marrakech, pour vraiment faire développer le football féminin africain. Et nous avons travaillé pendant 2 jours pour qu'il y ait une stratégie, entre autres. Et après ça, il y a eu silence. On n'a pas eu de feedback. Et c'est tout récemment qu'ils ont mis en place la stratégie, il y a juste 2 mois. Il y a juste 2 mois, donc ils ont finalement mis en place la stratégie du football féminin, parce que c'est quelque chose qui était très important pour nous, parce qu'on sait que le football, au niveau de la CAF, football féminin n'a pas été vraiment mis en valeur comme la FIFA le demandait.
Mais Oumou, dans le bilan de Ahmad, on cite aussi la création de la Ligue des champions féminines.
Oui, c'est tout récemment, quand ils ont mis en place la stratégie. Ça fait 2 mois que cette stratégie est sortie. Et nous, quand nous avons travaillé sur la symposium du football féminin, c'était en 2017. Donc, il y a eu ce silence, parce que nous aussi, nous avons notre réseau de toutes les femmes toutes les femmes africaines. Depuis ce jour, au niveau du symposium, nous avons créé notre réseau et on s'est rendu compte qu'il y a eu ce silence, il n'y a pas eu de feedback. 2017, et c'est maintenant à la fin du mandat, à la fin du mandat, où ils ont mis en place cette stratégie pour créer les compétitions et entre autres. Mais sinon, cette stratégie, elle vient d'être mise en place. nous avons travaillé pour les années à venir.
Merci beaucoup, Oumou Kane. Et vous savez quoi, Edouard ? Je suis particulièrement contente ce soir parce que, vous voyez, il y a une femme. Le foot, ce n'est pas qu'une affaire d'hommes.
Exactement.
On a une femme qui est de surcroît de Mauritanie. Et puis, on a surtout aussi une auditrice, Maman Diop. C'est elle qui a envoyé cette question.
C'est elle qui a envoyé cette question.
À Oumou Kane, notre invitée. Et nous encourageons, nous en profitons pour encourager les femmes à prendre la parole. Mesdames, nous vous attendons avec plaisir. Prenez la parole. Ne laissez pas les hommes parler à votre place, s'il vous plaît. Et nous allons, Edouard, vous remercier. Edouard Bérangénie.
Merci, Liliane.
Et on vous dit à lundi prochain pour d'autres questions.
À lundi.
Et nous retournons au Tchad, à N'Djamena, pour retrouver M. Hamid. Vous nous avez entendu pendant tout ce temps, M. Hamid ?
Oui, je vous entends bien.
Voilà, dites-moi, dites-nous s'il vous plaît. Il y a 4 ans, on avait observé une sorte de plébiscite carrément de Hamad pour sa réélection à la tête de la Confédération africaine de football. Est-ce que vous pensez que même si sa candidature réussissait à être candidat et qu'il était élu, est-ce qu'il pourrait avoir le même soutien qu'on a observé il y a 4 ans? Sinon, pourquoi?
Merci. Je pense que Hamad, depuis qu'il est là, comme les gens ont dit, le football, avec l'arrivée de Infantino à la FIFA, c'est devenu une révolution et augmenter des clubs au niveau mondial. Et faire du football féminin un exploit carrément. Et là, l'Afrique est obligée de suivre. Et l'Afrique, on a beaucoup de pays. Et pour harmoniser les compétitions avec les compétitions FIFA, ça a été difficile. Sinon, toutes les initiatives ont été initiées. Et c'est une bonne chose malgré Covid. Moi, j'ai eu l'impression que le football continue à se jouer sur le terrain. Et des grands clubs commencent par se démarquer. Par le passé, on voyait quelques rares pays monopoliser carrément. Mais maintenant, si aujourd'hui, on parle par exemple de Oroya ou de Barkhane, des clubs qui montent en flèche d'une manière vraiment professionnelle. Et j'ai l'impression que tout a été mis par rapport à ce que la FIFA a fait. Et même si ce n'est pas réussi à 100%, j'ai l'impression qu'il y a de bonnes choses qui se font. Et maintenant, ça dépend maintenant de l'analyse de chacun.
Mais quelle est la vôtre ? Quelle est la vôtre ? Est-ce que vous pensez que le bilan de Hamad aujourd'hui lui permet et pourrait lui permettre d'être réélu avec un large avantage, un large score comme ce fut le cas il y a 4 ans ? Quel est l'état d'esprit dans les fédérations ? Je suppose qu'entre président de fédération, vous discutez entre vous.
Mais en tant que fédération, moi, j'ai trouvé que c'est positif. Et l'arrivée de Samoura à la CAF, j'ai l'impression que c'est à la demande du comité exécutif de la CAF pour peut-être éclaircir les choses. Et j'ai l'impression que ça a marché. S'ils n'ont pas renouvelé, c'est que peut-être ils ont trouvé les rails pour continuer. Et là, je pense que, comme je l'ai dit, avec la révolution qu'a fait la FIFA, l'Afrique a du mal à suivre, mais j'ai l'impression que moi, c'est positif. Et le bilan, je ne peux pas dire que c'est avec des chiffres à l'appui, donc le bilan, ça dépend. Mais moi, je trouve que quand même, c'est positif et ça continue à faire.
Donc, vous pourriez bien donner votre voix à Hamad ?
Oui, je reste fidèle à lui parce que c'est celle qui m'a demandé. Jusqu'à là, je reste fidèle à lui.
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse que vient de nous faire Lamine sur les chances des candidats ? Lui, il estime que, en dehors de Jacques Anoma, les autres candidats n'ont pas de chance. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette analyse ? Et que pensez-vous de celle d'Augustin Senghor, la candidature d'Augustin Senghor de la Fédération sénégalaise de football ?
Non, je ne suis pas d'accord avec. Je connais Senghor, je connais Hamad Yaya, je connais Anouma, je connais Hamad
les sortants, et les chances se valent un peu partout. Il ne peut pas dire que Jacques Kanouma, par rapport à quoi il peut dire. Parce qu'on ne peut pas dire que l'autre a des chances parce qu'il est ancien et il a brigué avant. Avant ça, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ceux qui ont brigué aussi ont leur idée de quoi ils veulent faire leur campagne et à eux seuls. Donc, je ne suis pas d'accord sur ça. Donc, d'accord. Les chances, c'est valable, c'est parti.
D'accord. Encore qu'il y a encore beaucoup de temps hein, pour valider déjà les candidatures. On ne sait pas déjà si tous ces candidats déclarés seront retenus. Oumou, vous êtes là? Allô, Oumou? On a Hugo Vallière à la réalisation me fait dire que Oumou n'est pas en place. Oumou, lui, apparemment, oui, maintenant, Oumou, vous m'entendez?
Oui, oui, c'est bon.
On vous avait perdu, Oumou. Alors, oui. On a l'impression que, voilà, le foot, c'est une affaire d'hommes parce que la CAF n'a jamais été dirigée par une femme. Là encore, on parle des 5 candidats, aucune candidate. Est-ce que vous vous dites que, finalement, les femmes font figure de, je vais dire, me répéter, de figuration, c'est-à-dire que ce sont des figurantes dans ce milieu? Est-ce que vous vous sentez un peu frustrée?
C'était pas vraiment notre remarque hein, quand nous sommes arrivés dans le monde du football des hommes, parce qu'au début, on était là juste comme des figurantes, mais on a décidé, voilà... de plus être des figurantes et nous avons vraiment eu le soutien de la FIFA. Sans le soutien de la FIFA, je pense que le football féminin en Afrique n'allait pas décoller parce que pour notre force, vraiment, si je donne l'exemple de la Fédération Mauritanienne de football, quand j'ai pris fonction, j'ai juste suivi la stratégie du football féminin mise en place par la FIFA et ce que j'ai appliqué, c'est qu'à faire que j'ai fait une stratégie qui a été vraiment un modèle ici en Mauritanie et que j'ai même été invitée à l'activité que la FIFA a organisée en France lors de la Coupe du Monde féminine. Et je pense que nous ne voulons pas juste être...
Mais est-ce que vous souhaitez plus de féminisation des instances sportives continentales, qu'il y ait plus de femmes dans des postes importants?
Exactement, qu'il y ait des femmes vice-présidentes, présidentes, secrétaire général au niveau de la Fédération africaine de football et même au niveau des fédérations de football dans tous les pays africains. Et c'est ce qu'ils doivent comprendre. C'est un combat. Le football, c'est des filles, un football, moi-même, les femmes.
Merci. Voilà. C'est peut-être l'un des défis hein, auxquels devrait s'attaquer le futur président de la Confédération africaine de football. Lamine, exactement. En quelques mots, merci Oumou. En quelques mots, Lamine. Que reproche-t-on exactement à Ahmad?
Que reproche-t-on à Ahmad, comme je le disais tout à l'heure, tantôt, et je voudrais bien apporter une précision par rapport à mon choix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vote pas, mais je pense que comme le président du Tchad a lui-même reconnu que lui, sa voix, il la porterait vers Ahmad Ahmad, il reste fidèle à Ahmad Ahmad. Moi, de mon côté, même si je ne vote pas, je pense que par rapport à tout ce qui s'est passé, quand je dis tout ce qui s'est passé, ce sont les différentes choses qu'on reproche à Ahmad, ce sont plutôt le fait de ne pas avoir eu une politique très claire. Parce que Oumou a raison quand elle parle un peu du développement du football féminin. Été annulé. Et c'est la FIFA.
Excusez-moi, Lamine, on va devoir vous interrompre. La ligne n'est pas très claire et c'est d'ailleurs le moment de marquer une pause. Mais rassurez-vous, vous poursuivrez vos propos juste après cette petite pause. Restez avec nous, chers invités.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et ce soir, nous débattons de l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football. La candidature a été bouclée hier 12 novembre et jusqu'à présent, 5 candidats déclarés ont été enregistrés, dont le président sortant Ahmad qui brigue un second mandat. Et avec Lamine, nous parlions, Lamine, de ce que reproche le comité éthique de la FIFA à Ahmad. Et est-ce que cela peut lui coûter sa candidature?
Écoutez, pour moi, je ne pense pas. Je n'y crois pas. Pourquoi ? Pour une simple raison, c'est que on a eu des exemples de comités d'éthique qui ont jugé des gens au niveau de la FIFA et qui ont été blanchis. Je prends l'exemple, par exemple, de Kalusha Bualia, qui a été président de la fédération
zambienne
de football, à qui on avait reproché des malversations, et finalement, ça s'est terminé sur le fait qu'il a été complètement blanchi. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi ? Et je pense qu'il va réussir ça. Il va être candidat encore pour une deuxième fois. Parce que tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, Ahmad Ahmad est une courroie de transmission pour la FIFA. Et donc, à partir du moment où la FIFA a quelqu'un qui gère pour lui, pour elle plutôt, la politique sur le continent, il n'y a pas de raison de l'enlever. Parce que quand vous prenez toutes les réformes qui sont là et qui
allô, Lamine. Oui. On vous perd par moment. La liaison, vous êtes pourtant à Paris. On ne comprend pas pourquoi la liaison est si mauvaise. Donc, vous disiez que vous pensez qu'on va blanchir Ahmad, mais certains experts du sport disent que Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football, la FIFA, s'active pourtant et veut absolument empêcher la candidature de Ahmad. Parce que il semble qu'il ne pardonne pas à Ahmad d'avoir mis fin à la mission d'audit de la Sénégalaise Fatma Samoura, qui était alors secrétaire générale au Caire en 2019.
Mais justement, j'ai posé ce problème tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez mieux ?
Oui, on vous entend mieux.
Voilà. Donc, j'ai posé ce problème tout à l'heure en disant quelle était la raison pour laquelle on avait mis fin au contrat de
Fatma Samoura.
De Fatma Samoura. Bon, et que ce rapport est sorti avec des choses qui ne sont pas tout favorables à Ahmad Ahmad. Mais moi, je dis encore une fois, étant donné qu'Ahmad Ahmad, pour ma part, est une courroie de transmission par rapport à la FIFA sur le continent, je ne vois pas comment on pourrait l'enlever pour aller dans l'inconnu par rapport à un autre candidat. Vous savez bien qu'avec la force personnalité de Issa Hayatou à un moment donné, on a vu que quand même ça a été très très difficile. Je pense que
et
néanmoins...
Il a même été presque humilié en 2017. Alors, Lamine, en quelques mots, hein, si malgré tout Ahmad était mis hors de course, que se passerait-il ?
Ben, il faudra que toutes les réformes, à mon avis, que toutes les réformes qu'il a engendrées ou qu'il a commencé à mettre, par exemple, ne serait-ce que faire une Coupe d'Afrique des nations à 24, soient revues, même s'il y a des avantages et des inconvénients. Essayer de voir aussi cette Coupe d'Afrique des nations qui a été mise en place qui devrait être mise en place pour tous les 4 ans. Revoir la situation aussi, il y a beaucoup de choses. Et puis, bon, c'est vrai qu'on lui reproche aussi toute cette malgouvernance, parce qu'il y a, d'après ce que le rapport de Fatma Samoura a sorti, étant donné qu'il y a eu beaucoup de gens autour de Ahmad Ahmad qui se sont gavés, d'après ce qu'on dit, et donc ce serait au conditionnel que certains présidents recevraient 20 000 dollars par an, donc tout ça, ce sont des choses qu'il faudra surveiller.
Merci.
Bien entendu, moi je ne peux pas m'enfoncer dedans parce que je n'ai pas de preuves, mais je ne fais que suivre l'actualité pour savoir qu'effectivement il y a un rapport qui est sorti, qui a été diligenté par la FIFA et qui a ce genre de choses-là. Maintenant, le code d'éthique dit toujours, voilà, il y a des sanctions. Ces sanctions, c'est quoi ? C'est soit une mise en garde, soit un blâme, soit une interdiction d'exercer toute activité relative au football. Je ne pense pas que Ahmad...
Qu'on irait jusqu'à...
Exactement.
Voilà, on invalider sa candidature.
Parce que quand même, pour terminer... dans le code d'éthique, on dit toujours dans sa définition que sur son champ d'application temporel, on dit que ça s'applique à tout comportement, même survenu avant l'adoption du président. Avant, on a vu que quand même Ahmad, quand il était président de la Fédération malgache de football, il y a eu quand même certaines choses qui se sont passées au niveau gouvernance.
Merci. On ne va pas revenir dessus puisque ce n'est pas le sujet et nous n'avons pas de preuves pour évoquer cela. Monsieur Hamid, vous êtes en ligne de N'Djamena, vous m'entendez?
Oui,
monsieur Hamid?
Oui.
D'accord. Je tiens à surveiller toujours parce que les lignes téléphoniques nous font quelques misères ce soir. Alors, on a entendu le président Ahmad récemment dire que il ne pensait pas que ce soit que les autres présidents de fédération peuvent se présenter contre lui, mais on voit que il est allé un peu vite en besogne puisqu'aujourd'hui il doit se battre contre quatre candidats si sa candidature venait à être validée. Allô, monsieur Hamid?
Oui, je vous écoute.
Oui, il avait l'air optimiste. Il pensait que, voilà, il n'aurait pas d'adversaire, mais là, c'est fait. Est-ce qu'on peut aller parler, on peut juste aller parler de trahison de la part de ses concurrents?
Trahison, c'est trop dire parce que ils sont tous libres de leur décision, donc on ne peut pas dire qu'ils ont trahi. Mais seulement,
Je pose la question parce que s'il l'avait dit, ce que il avait peut-être la promesse de toutes ces personnes que il serait soutenu.
Non, il peut pas dire qu'ils ont trahi. Ils ont changé d'avis, d'accord, mais trahir, c'est trop dire. Donc, je crois qu'il le dira avec un peu de respect.
Il n'a pas dit, je dis, est-ce qu'on ne peut pas le penser? En 30 secondes, monsieur Hamid, quels sont vos espoirs? Est-ce que vous souhaitez que tous les 5 candidats soient validés, toutes les 5 candidatures soient validées?
Parce que vous avez parlé de beaucoup de dossiers que je ne maîtrise pas et je n'ai aucune nouvelle à propos de tout ce que vous dites. Donc, moi, pour moi, si tous ces candidats sont validés, j'ai l'impression que l'Afrique est divisée en ouest, est, centre, nord.
Anglophone, francophone. D'accord, merci beaucoup.
Francophone.
Merci.
Et une petite remarque, c'est que les anglophones se sont révoltés et ça a coûté à Hayatou pour ici amateur à la tête de la CAF.
Merci.
Et pour cette fois-ci, vous prenez l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. De l'Ouest, il y a 3 candidats rien que pour l'Afrique de l'Ouest.
Exactement.
Alors là,
Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Même si la Mauritanie n'est plus membre de la CDAO. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé. Merci à Mohamed Mahmoud, le président de la Fédération tchadienne de football. Vous étiez en ligne de N'Djamena et en ligne de Nouakchott Oumoukane, directrice du département football féminin à la Fédération mauritanienne de football. Et merci à notre collègue Lamine Badiane, journaliste sportif. Restez avec nous.